avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Comme hier, nous sommes à Tunis, mais cette fois pour parler des violences faites aux femmes et de la mobilisation de la société civile. En effet, aujourd'hui, 6 ans après la Révolution, la contestation n'est plus seulement économique, sur le pouvoir d'achat par exemple, mais une partie des Tunisiens, jeunes, urbanisés ou très connectés, réclament un vrai changement dans les mentalités et dans les lois, notamment pour la situation des femmes et de leurs droits. Près de la moitié d'entre elles en Tunisie déclare avoir été victime de violences physiques ou morales. La violence conjugale, première cause d'agression physique et de décès des femmes de 16 à 44 ans. Alors, ce sont des chiffres qui alarment les autorités. Une réalité qui tranche aussi avec l'image que l'on a de ce pays, avec le code du statut personnel qui donnait historiquement de réels droits aux femmes, loin devant le reste du continent d'ailleurs, notamment comme le droit à l'avortement. Nous allons en discuter avec nos invités tunisiennes de différentes générations. Nous sommes en compagnie de Nadia Benzarti, qui est psychologue, directrice du foyer d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences à Tunis. Et ça fait partie de l'association Beiti. Bonjour Nadia Benzarti.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Également avec nous, Anne-Emmanuel Asseri. Vous êtes ce qu'on appelle une écoutante, c'est bien cela?
C'est ça, oui.
Dans un centre d'écoute pour des femmes qui ont besoin de conseils, qui vivent des situations difficiles, qui sont victimes de violences. Et tout cela fait partie de l'association très connue en Tunisie, une association ancienne, l'association tunisienne des femmes démocrates.
C'est ça.
J'ai dit l'essentiel.
Oui, oui, merci de m'avoir invitée. C'est une association féministe, oui, indépendante.
Voilà, vous annoncez la couleur. Hein.
Oui, c'est clair.
Amal Yacoubi, 27 ans, juriste en sciences criminelles.
Oui.
Et vous êtes chargée de projets à Euromed Droit. Euromed Droit, c'est une organisation internationale qui est là pour renforcer les droits humains, qui est basée au Danemark.
En fait, notre siège, c'est au Danemark. Et le bureau ici en Tunisie, c'est un bureau Maghreb.
Et vous aidez donc les associations qui se mobilisent sur le sujet?
Absolument. Notre rôle, c'est de renforcer et surtout d'appuyer et soutenir les organisations de la société civile tunisienne. Nos membres et partenaires.
Voilà. Et en ce moment, il y a une petite ébullition sur toutes ces questions-là. Mmh. Également avec nous, 2 lycéens qui représentent un peu la nouvelle génération. Ils sont élèves au lycée français Pierre Mendès France à Tunis. Et ils sont venus au lycée Gustave Flaubert pour enregistrer cette émission à l'occasion de cette grande rencontre sur la formation aux médias et à l'information. Bonjour Anna Mahazoun.
Bonjour.
Vous êtes présidente du mouvement He for She. Dans votre lycée, He for She, ça veut dire il pour elle. Vous pouvez nous dire juste en 2 mots ce que c'est ce mouvement?
C'est une association qui lutte pour l'égalité des genres et nous cherchons à sensibiliser principalement les collégiens et les lycéens à cette question.
Et avec vous, donc un lycéen, dans ce mouvement qui compte une trentaine de lycéens, il faut qu'il y ait autant de garçons que de filles ou pas forcément? Skander Boubaker?
Pas forcément. Dans l'association, déjà 30 participants, on a une majorité de filles. On s'y attendait un peu, mais il ne faut pas forcément une égalité, ça serait forcer les choses.
Vous nous direz bien sûr pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette association en tant que jeune garçon, pourquoi vous avez envie de vous engager pour davantage d'égalité entre les filles et les garçons. Alors, on va commencer avec la réalité de la situation des femmes aujourd'hui en Tunisie. Je voudrais vous poser la question à chacune d'entre vous. Quelles sont les évolutions de la situation des violences faites aux femmes au regard de votre propre parcours associatif, militant, puisque vous êtes toutes les trois, finalement, des militantes? Nadia Benzarti?
Concernant la réalité des violences à l'égard des femmes, en fait, ça se passe dans le monde entier, mais particulièrement en Tunisie, la domination masculine, déjà, elle est très prégnante, ce qui laisse qu'il y ait une culture de violence, qui fait que la banalisation et la normalisation des violences sont très saillantes dans notre société. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, en fait, c'est une acceptation de cet état. Autrement dit, c'est plutôt accepter la violence dans le sens où on ne doit pas réagir parce qu'on a peur de réagir. Et ça, c'est à cause de la domination et du patriarcat.
Ouais. En fait. Mais Anne-Emmanuelle Asseri, vous êtes, d'ailleurs, il faut que je le précise, vous êtes franco-tunisienne, hein, en Tunisie depuis plus de 40 ans. Oui. Vous avez fait une partie même de vos études en Tunisie. Vous avez travaillé dans l'administration tunisienne, notamment sur la santé et la reproduction sexuelle. Vous, avec ce long parcours associatif que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est dégradé sur la situation des femmes et des violences dont elles peuvent être victimes ?
La situation ne s'est pas dégradée. La situation, maintenant, est là. On en parle. Elle est documentée par des études, parce qu'avant, le pouvoir en place disait « nous n'avons pas de violence », bien que l'Association tunisienne des femmes démocrates, en 1996, ait écrit un plaidoyer pour les décideurs en leur disant « attention, il y a violence à l'encontre des femmes, il faudrait des mesures ». À ce moment-là, la ministre de la Femme avait dit « il n'y a pas de violence ». Maintenant, les violences sont bien documentées. Il y a une enquête nationale qui a été faite par l'Office national de la famille et de la population en 2010, qui a montré donc qu'il y avait la moitié des femmes qui disaient qu'elles avaient au moins une fois dans leur vie subi des violences. Il y a en 2015 l'étude du CRÉDIF, qui est une étude sur les violences dans l'espace public, où 53,5% des femmes disent « oui, nous sommes violentées dans l'espace public, ce sont des violences physiques, sexuelles, psychologiques, etc. Nous sommes harcelées ». Donc, les femmes osent parler, ça veut dire que la société civile aussi fait pression et commence à dire « ça suffit ». C'est vrai que les violences sont souvent normalisées de par la culture, mais c'est aussi vrai que de plus en plus, les femmes osent parler, et c'est très bien. Et que s'il y avait avant un seul centre d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violences jusqu'à la Révolution, maintenant, il y a beaucoup de petits centres qui ouvrent dans les régions. Donc, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que la société civile est là pour dire qu'il y a des violences. Il y a aussi de plus en plus de violences parce qu'il y a des problèmes économiques, parce qu'il y a le terrorisme, parce qu'il y a l'impunité pour les violences sexuelles. Les violences sont vraiment maintenant à découvert.
Amal Yacoubi, vous avez le sentiment qu'avec la dégradation de la situation économique, surtout des hommes, le chômage, ça crée une crispation, une tension qui finalement se rabat, retombe sur les femmes, ça peut être lié ?
Bien sûr, aujourd'hui, en parlant des violences, surtout la réalité d'une société patriarcale par excellence, aujourd'hui, on parle de l'appauvrissement des femmes, la féminisation de la pauvreté. On parle aussi des taux de chômage et des chiffres alarmants des femmes victimes de violences ou bien violences économiques, bien évidemment.
Mais dans la réalité, c'est quoi les violences qui sont faites aux femmes aujourd'hui, récurrentes, que vous retrouvez dans les centres d'écoute, que vous retrouvez dans le foyer de femmes victimes que vous gérez, les unes et les autres ?
Concrètement, c'est des violences et conjugales et économiques et sexuelles également. Par exemple, nous avons des femmes qui viennent pour être hébergées et pour être protégées de leur propre famille ou de leur propre mari, car elles sont exclues de la part de leur famille parce qu'elles demandent le divorce au mari qui violente, lui, sa femme.
Et la famille répond quoi ?
Elles ne soutiennent pas la femme car c'est culturellement inacceptable.
Anne-Emmanuelle Esseri, vous, en tant qu'écoutante ?
Les femmes ne viennent pas demander des conseils. Les femmes viennent verbaliser. Elles ont décidé que les violences, c'était pas normal. Et un jour, alors qu'elles subissaient ces violences quelquefois depuis 10, 15, 20 ans, elles ont envie de dire assez et elles viennent. Pour être écoutées, mais aussi pour être confortées dans le fait que les violences ne sont pas normales. Nous n'avons pas de conseils à donner à ces femmes-là. Nous sommes là pour les écouter, pour aussi peut-être les aider à être de plus en plus autonomes, pour aussi leur expliquer quels sont leurs droits actuellement en Tunisie, même si nous avons une législation assez pauvre en matière de protection des femmes victimes de violences, pour aussi quelquefois leur rendre un peu plus d'estime d'elles-mêmes. Nous ne sommes pas dans le conseil, d'accord ? Et il y a surtout cette action de solidarité. Nous sommes solidaires de ces femmes victimes de violences, c'est très important. Être solidaire aussi, c'est dire que c'est la situation de toutes les femmes en Tunisie. C'est le fait d'être léguée à un statut inférieur dans la société, qui est normalisé dans nombre de lois. Et c'est un peu ce constat que nous faisons ensemble. Maintenant, par rapport aux femmes que nous recevons tout type de violence. Par exemple, cette semaine, J'ai reçu une femme, c'était hier, qui est venue avec des violences physiques notoires, mais en fait, ce dont elle se plaignait le plus, c'était des violences sexuelles qu'elle subissait quand on a osé poser la question et aborder la question.
Viol conjugal n'est pas reconnu en tant que tel.
Le viol conjugal n'est pas reconnu, et même la femme, quelquefois dans ses propos, se dit « oui, moi je sais que je devrais être à la hauteur, mais je n'y arrive pas ». Et quand on lui dit « c'est pas une question d'être à la hauteur », les obligations sexuelles, ce n'est pas quelque chose
à la hauteur de quoi ?
À la hauteur pour elle, c'est parce qu'on lui a appris, de par la tradition et la culture, et de par la loi, qu'elle a des obligations sexuelles envers le conjoint. Et donc tout ça, c'est intériorisé chez les femmes, et c'est complètement approprié. Donc il y a un travail de déconstruction à faire en lui disant « mais votre corps, il est à vous, et si vous n'avez pas envie, eh bien vous n'avez pas envie, et c'est à lui de vous respecter. Vous êtes une femme indépendante, autonome, et votre corps vous appartient, ne lui appartient pas. Les lois, ces traditions-là, c'est obsolète, et ça fait du mal, et ça fait des violences, et voilà où est-ce qu'on arrive. »
Alors justement, on va en parler des lois, puisque la société civile se mobilise notamment regroupée dans un collectif civil pour les libertés individuelles, et parmi ces libertés individuelles, il y a évidemment une grosse mobilisation pour les droits des femmes. Milliards de voisins sur RFI. L'émission est enregistrée à Tunis, plus précisément à La Marsa, au lycée Gustave Flaubert, où nous discutons de la mobilisation de la société civile sur les droits des femmes. Et avec nous, nos invités qui sont des militantes avec des générations différentes. Vous avez certaines d'entre vous moins de 30 ans, d'autres au contraire un long parcours associatif. Alors ce projet de loi pour lutter contre les violences faites aux femmes, qu'est-ce qu'il comporte? Quelles sont les avancées s'il était voté, s'il était appliqué? Qui veut s'exprimer là-dessus? Amalia Goubi de Remède Droit.
Aujourd'hui, on a un projet de loi intégral sur les violences à l'égard ou bien les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, le projet de loi, il contient les 4 P, prévention de violence, la protection, la prévention, les poursuites des auteurs de la violence et surtout la prise en charge.
Pour parler concrètement, la protection, ça veut dire quoi? Ça veut dire une femme qui se fait tabasser par son mari, elle peut arriver dans un commissariat sans qu'elle soit la risée du commissariat, par exemple, Anne-Emmanuelle Assery.
La protection des femmes, c'est la première chose, c'est quand une femme, comme vous dites, se fait tabasser par son mari, c'est que la police vienne chez elle et qu'elle reste chez elle. Et que ce ne soit pas elle qui soit dans la rue. Ça, c'est la protection des femmes. La protection des femmes aussi, c'est pouvoir dire que quand une femme, parce que la société fait pression sur elle pour qu'elle retire sa plainte au commissariat, au moins que l'État se substitue à elle pour continuer à ce que les auteurs des violences soient poursuivies, donc, comme c'est fait en Espagne.
Ça serait partie civile, par exemple.
Voilà, ça serait ça, le souhait. Protéger les femmes, c'est ça. C'est quand elles ne peuvent plus, parce que la société est pesante et la société les empêche, et on lui dit comment est-ce que tu vas mettre le père de tes enfants en prison, qu'il y ait une réelle volonté de l'État à protéger ces femmes-là. protéger aussi les femmes, c'est refuser le mariage forcé des mineurs qui se sont fait violer.
Alors, c'est le fameux article 227 du Code pénal
en Tunisie,
voilà. Qui supprime la possibilité pour un violeur d'échapper à des poursuites pénales s'il épouse sa victime de moins de 20 ans. À l'heure actuelle, c'est le cas. Il y a eu un épisode qui a beaucoup mobilisé l'opinion ces derniers mois. On peut en parler peut-être en décembre dernier.
C'est une jeune femme qui aurait subi un acte sexuel sans violence. Donc, on ne sait plus très bien. Moi, je ne suis pas juriste, mais quand c'est quelqu'un qui n'est pas consentant, ça s'appelle un viol. Quand c'est quelqu'un qui est consentant, comment est-ce qu'un mineur peut être consentant? On n'a pas très, très bien compris. Et finalement, ça aboutit au fait que cette personne qui serait mineure, qui aurait eu un acte sexuel consentant, la personne qui aurait perpétré cet acte-là, pour réparer, pourrait se marier avec elle. C'est une absurdité. C'est une
absurdité.
En décembre dernier, donc, il y a une pression de la société civile par rapport au fait qu'il y a un juge qui a autorisé le mariage de cet agresseur, donc de ce violeur, parce qu'il faut bien appeler les choses, avec cette jeune femme mineure. Et la société civile
de
est
quel
descendue
âge, cette jeune
dans
femme
la rue. 13 ans.
13 ans.
Voilà. Et la société civile est descendue dans la rue. Mais ce n'est pas du tout le premier cas. Moi, je peux vous raconter nombre de cas.
Mais la Tunisie n'est pas un cas isolé non plus. Hein, là-dessus, il y a eu des histoires tout à fait symétriques au Maroc, dans
mais bon au Maroc, la loi a été abolie. La loi est abolie depuis, je crois, une ou deux années. Et la Tunisie, qui s'enorgueillit d'avoir quand même un code du statut personnel où, en principe, quand il y a mariage, il a consentement des époux. Et là, elle se permet un mariage forcé des fillettes.
Qu'est-ce qui bloque sur cet article bis de ce mais
c'est les conservateurs. Nous avons, au niveau de la magistrature, des gens extrêmement conservateurs. Et nous avons des politiciens extrêmement conservateurs.
Quels sont les arguments pour bloquer là-dessus?
La protection de la famille, c'est l'honneur des familles. C'est l'honneur des familles.
On préfère que notre fille se marie avec son violeur qu'elle soit non vierge aux yeux des voisins. Je dirais ça comme ça, moi.
Les débats sont encore vraiment tendus sur ce sujet-là?
Les débats sont vraiment encore tendus sur ce sujet-là, bien sûr. Et la preuve même, c'est que finalement, il y a des mesurettes. Le gouvernement dit, non, on va suspendre. Dorénavant, le mariage ne peut pas se faire. Oui, mais est-ce que cette loi-là est passée à la RP? À l'Assemblée des représentants du peuple. Non, elle n'est pas passée. Lors du dernier gouvernement, elle devait passer, mais elle n'est pas passée. Et qu'est-ce qu'attend ce gouvernement-là pour abolir cette loi? On se pose des questions. Donc finalement, c'est un éternel. On est là avec une petite mesurette et qui ne change pas, franchement, les choses.
Amal Yacoubi.
En fait, l'argument principal, c'est de préserver la famille légitime contre d'éventuelles naissances hors mariage. Et surtout, il est clair que l'objectif aujourd'hui du législateur, c'est de préserver l'honneur perdu des familles. Mais on ne prend jamais considération et on ne prend jamais en compte la fille qui a été brisée et ça coûte cher à la société.
Les intérêts de l'enfant, en fait, les intérêts supérieurs de l'enfant ne sont pas tenus en compte.
Ça coûte cher à la société, qu'est-ce que vous voulez dire
par là ? En termes de santé publique. En termes de santé publique, lutte contre la pauvreté et
les violences.
Et puis
ces petites filles sont déscolarisées. C'est des filles qui ne pourront pas suivre des études. Elles vont être en général dans des métiers, même pas des métiers. Elles vont exercer, elles vont travailler dans des conditions extrêmement précaires.
Nadia Benzarti, vous qui êtes psychologue clinicienne.
Moi, je rapporte toujours à la culture mes arguments.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que nous sommes une société de traditionnalisme. Ce conservatisme n'est pas vraiment des croyances religieuses, mais plutôt de tradition. Il y a certaines parties, je vais dire, qui sont plus dans le conservatisme religieux, mais c'est plus du traditionnalisme. Ça veut dire que nous avons cette culture d'aller, par exemple, faire ceci par imitation, parce que notre voisin l'a fait. Nous avons cette culture aussi de vouloir nous protéger des paroles des autres, des uns et des autres. Ça veut dire qu'il faut toujours laisser nos salades internes à l'interne. Mais c'est très paradoxal parce que aussi il y a cet exhibitionnisme, je dirais, de tout étaler dans le voisinage et tout. Mais malheureusement, ce choix de conserver cet article justement et de l'appliquer surtout, c'est plutôt un choix où l'on croit qu'on est en train de protéger la femme. Mais ce n'est pas le cas.
Il a été appliqué donc, il y a quelques mois par un juge qui a donc bien permis le mariage avec cette fillette de 13 ans qui avait été violée. On va parler, bien sûr, après le flash de la circulaire 33 qui interdit pour une Tunisienne d'épouser un non-musulman, qui est la bataille probablement la moins avancée. Vous nous direz pourquoi. Il y a aussi l'article 236 du Code pénal qui réprime l'adultère, 5 ans de prison. Enfin bref, il y a d'autres batailles, bien sûr, pour améliorer l'accès et la protection des femmes et l'accès à leurs droits. Vous restez avec nous, bien sûr. Nous nous retrouvons juste après le flash dans un peu plus de 3 minutes sur RFI, 7 milliards de voisins.
Le débat du jour, 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines, pour se parler du lundi au vendredi sur RFI. C'est la deuxième partie de notre émission enregistrée à Tunis, au lycée Gustave Flaubert. Nous abordons un sujet délicat en Tunisie, mais qui délie de nombreuses langues. Nous parlons des violences faites aux femmes et de la montée, de la mobilisation de la société civile pour les droits des femmes et pas seulement d'ailleurs. On en discute avec nos invités, Nadia Benzarti qui travaille pour l'association Beiti. Vous êtes psychologue clinicienne, vous dirigez un centre d'accueil pour des femmes victimes de violences, vous avez 29 ans. Et Amal Yacoubi, vous travaillez pour Oromed Droit, c'est une organisation internationale, vous aussi vous avez moins de 30 ans, 27 ans. Et Anne-Emmanuelle Asseri, vous avez un long parcours associatif, vous travaillez pour l'association tunisienne des femmes démocrates et vous êtes écoutante dans un centre de femmes qui viennent, alors vous nous le disiez très bien en première partie d'ailleurs, qui ne viennent pas demander des conseils mais qui viennent verbaliser, qui viennent raconter, dire tout simplement ce qui leur arrive quand elles sont victimes souvent de violences conjugales, mais pas seulement. Alors tout en tout cas, vous vous mobilisez pour faire d'abord évoluer la loi, parce que vous nous le disiez, finalement c'est la première étape, faire changer le droit, pouvoir déposer plainte quand on est une femme victime, c'est la première chose à faire. Anne-Emmanuelle Asseri.
Oui, bien sûr, pouvoir déposer plainte, c'est la première chose à faire et c'est une chose que les femmes tunisiennes ont beaucoup de mal à faire. D'abord parce qu'elles ont du mal à... L'enquête nationale a bien dit qu'il y avait 17% de femmes qui portaient plainte. Oui. Ça veut dire qu'il y en a sûrement plus. Rien. Il y a peut-être 40% de femmes qui sont allées au poste de police, mais le policier leur a dit « je vais appeler ton mari, ils font de la... » Nous, nos policiers sont extraordinaires. Alors, ou bien ils font de la médiation. Je ne sais pas s'ils ont été formés pour la médiation. Nous, on ne sait pas la faire, mais eux, ils savent la faire. Alors, ils appellent les conjoints, ils leur font peur. Mais après, elle revient une deuxième fois et je te rappelle ton mari. Et puis, quelquefois, elle lui dit, tu ne vas pas mettre le père de tes enfants en prison. Enfin, voilà. Elles ont beaucoup de mal à pouvoir déposer plainte. Quelquefois, nous leur expliquons qu'il vaut peut-être mieux qu'elles fassent une lettre au procureur de la République. Comme ça, elles n'ont pas à passer au poste de police. Sauf que s'il y a eu violence physique, elles sont obligées de passer au poste de police parce qu'il faut une réquisition pour pouvoir aller aux urgences. Demander un certificat médical initial. Donc déjà, c'est le parcours du combattant. Vous imaginez, quand on a subi autant de violences, c'est compliqué de faire comme ça des allées et venues et de tenir tête finalement à tout ce système administratif qui est contre vous, à part le fait que votre conjoint vous fait subir toutes les violences possibles et imaginables, physiques mais aussi psychologiques. Beaucoup de mépris, beaucoup d'humiliation, des insultes, enfin...
Alors, on est dans un lycée, on a convié des lycéens autour de la table. Ils vous écoutent très attentivement, mesdames, depuis le début de l'émission. Je voudrais qu'on donne la parole à une lycéenne qui veut vous poser une question. Lina, c'est à toi.
Bonjour, je m'appelle Lina, je suis en 4e au lycée Gustave Flaubert à la Marsa. Et j'ai une question pour vous. Alors, est-ce que quand les femmes, elles viennent vous voir, est-ce qu'elles ont honte, est-ce qu'elles regrettent de ne pas être venues vous voir plus tôt?
Elles ont honte de parler des violences parce que souvent, quand elles parlent des violences, elles disent « moi, je viens ici, je ne veux pas de mal à mon conjoint, je ne veux pas divorcer ». Donc, elles sont dans la culpabilité. Les femmes n'ont jamais émis de regret de ne pas être venues avant parce qu'en général, quand elles viennent, c'est la première fois qu'elles commencent à se rendre compte que ce n'est pas normal d'accepter tout ce qu'elles ont accepté avant. D'accord ? Mais c'est après... une très longue démarche pour que peu à peu, elles prennent conscience que c'est pas normal, qu'elles ont des droits, qu'elles doivent faire respecter, que ces hommes n'ont absolument pas le droit de leur faire subir ce qu'elles leur font subir, que les familles n'ont pas le droit de leur demander de subir ces violences, et que quand elles restent dans des situations-là, ce qui leur fait le plus peur, c'est la situation des enfants. Parce que derrière toute femme victime de violence, il y a les enfants. Et elles savent très bien que ces enfants, qui n'arrivent pas à se concentrer à l'école, qui tout d'un coup, vers l'âge de 9-8 ans, deviennent des enfants qui font pipi au lit, des enfants qui ont des comportements agressifs. Quelquefois, elles disent « je suis venue en parler parce que j'ai peur que mes enfants deviennent comme leur père ». et elles sont venues pas pour elles, parce qu'elles étaient prêtes à tout accepter, parce que la première fois, elles ont demandé à leur père ou à leur mère ou à une amie, elles en ont parlé, elles leur ont dit, mais tu sais, moi aussi j'ai subi, ou c'est comme ça, ou il va vieillir et après il va laisser tomber, et après, et c'est comme ça, et quand il boit, ben écoute, tu t'enfermes, t'essaies de pas lui ouvrir la porte. À chaque fois, on leur a donné des conseils qui n'ont vraiment pas changé les choses. Et finalement, quelquefois, c'est parce qu'il y a leurs enfants. Et à ce moment-là, elles viennent demander conseil. Et à ce moment-là, nous, quelquefois, nous avons aussi besoin de signaler aux délégués à la protection de l'enfance qu'il y a des enfants en danger, parce qu'il y a des pères qui frappent leurs enfants. Et puis des pères qui humilient leurs enfants, et puis des pères qui font travailler aussi leurs enfants.
Nadia Benzarti, vous dirigez un foyer d'accueil pour des mères qui viennent justement avec leur enfant sous le bras quand c'est plus possible. Est-ce que parfois elles vous disent « j'aurais dû venir plus tôt » ?
C'est pas tout de suite que ça se dit, parce que la première fois qu'elle vient, comme à Emma en a parlé, elle sent dans la culpabilité totale. Est-ce que j'ai fait le bon choix de venir ou pas? Parce qu'elle culpabilise également pour ses enfants, ses propres enfants. Elle se dit, moi, ils sont dans cette situation d'instabilité aujourd'hui, c'est à cause de moi. C'est à cause de ces violences que j'ai subies qui sont à cause de moi. Donc tout se réfère, cette culpabilité, elle est à la croix de jour en jour. Et c'est justement pour cela que la prise en charge des femmes victimes de violences, elle est très particulière. On ne peut pas, tant sur le plan psychologique que sur d'autres plans. Il faut toujours prendre en considération que la décision de la femme, elle peut changer d'une minute à l'autre. Aujourd'hui, elle vient avec une demande de divorce. Et après une heure de temps, elle revient sur ses paroles, elle se dit non.
On va donner la parole à des lycéens qui militent à leur façon. Anna Mazoun et Iskander Boubakar, vous êtes tous les deux en terminale, hein, c'est bien ça. Et Anna Mazoun, vous avez... fondée au sein du lycée Pierre Mendès France, Qui for She. Alors Qui for She, expliquez-nous un peu comment vous avez découvert ce mouvement qui a été créé par les Nations Unies, Il pour Elle, hein, c'est-à-dire le principe c'est qu'il y ait des garçons aussi à vos côtés, qui essayent de changer les mentalités bien en amont en fait, dans votre génération. Expliquez-nous Anna.
Moi j'ai découvert Qui for She grâce à Internet, grâce à des vidéos sur YouTube, mais aussi grâce à des articles. Et puis j'ai vu que c'était une cause intéressante à défendre ici parce qu'on est concerné, et non pas qu'ici, dans plusieurs pays un peu partout dans le monde.
Oui, on peut dire partout dans le monde, hein. Toute l'Europe est concernée aussi.
Et nous, au sein de notre lycée, on cherche à sensibiliser les élèves. Et à travers plusieurs actions, on a fait des micro-trottoirs, on a fait des courts-métrages, plusieurs choses.
Vous posez des questions toutes simples.
Oui.
Aux jeunes.
Surtout quand on a affaire à des collégiens, on s'est rendu compte qu'il fallait eux aussi les sensibiliser. Du coup, on a mis en place une vidéo qui explique le féminisme, Qui for She, de manière très très simple, que ça soit abordable.
Le but du combat est simple, c'est juste l'égalité, c'est quelque chose de normal. Donc...
Mais la question que vous posez quand vous travaillez sur le terrain, quand vous interrogez des jeunes...
On a posé plusieurs questions, mais... Les questions qui revenaient, est-ce qu'on peut avoir de l'égalité dans les milieux tels que la politique ? Mais aussi, pour revenir à ce que vous avez dit, vous, madame, la question de l'image de la femme dans la société. Et oui, il y a ce problème de la tradition, de la culture, du fait qu'il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire.
Voilà, c'est ça. Vous avez posé la question à des jeunes, notamment à des garçons, qu'est-ce qu'une fille ne peut pas faire ? Et la réponse des garçons, dans votre génération, c'est ben non, elle peut tout faire comme nous.
Oui, donc nous, on est une génération, je dirais, assez ouverte d'esprit. Les garçons encouragent les filles, d'ailleurs, nous, nos garçons dans notre association encouragent les filles, et je pense que c'est assez rassurant pour l'avenir.
Mais toi, Iskander Boubakar, qu'est-ce que tu as découvert en participant à ce mouvement, Il pour Elle, en tant que lycéen de 17 ans ou 18 ans ?
Déjà, j'en apprends tous les jours sur la situation de la femme, ici, rien qu'avec ce que les autres invités ont dit, ça m'a vraiment choqué.
Tu ne savais pas tout ce que tu viens d'entendre, là ?
Si, les violences, j'étais au courant, mais des menaces comme ça, c'est psychologiquement, ça détruit, c'est inhumain. Moi, je pense, étant donné que je suis dans un lycée où on a donc, le collège et une partie des CM2, et ça représente notre futur, le futur du pays et même enfin, du monde entier, et qu'il faut commencer par eux pour sensibiliser. Ils sont en train d'apprendre, et il faut leur apprendre aussi ces valeurs. C'est normal.
Alors, comment vous, mesdames, vous vous mobilisez à l'heure actuelle ? Puisque, donc, on l'a dit en première partie d'émission, il y a ce collectif qui regroupe beaucoup d'associations. Est-ce que vous êtes confiante pour qu'il y ait des avancées législatives sur les suppressions, notamment, de certains articles de loi, Anne-Emmanuelle
Nous avons déjà une constitution. Depuis mars 2014, c'est déjà ça, une constitution qui dit au moins deux choses importantes pour les femmes. La première chose, c'est qu'elle dit qu'il y a égalité entre les hommes et les femmes, égalité de droit. Donc c'est déjà un acquis, parce qu'il y avait eu, vous savez, un grand débat. Il y avait des conservateurs qui voulaient parler de complémentarité entre les hommes et les femmes. Donc grâce à la société civile, on a réussi à avoir l'égalité dans cette constitution. Et puis il y a un autre article qui dit que l'État se doit de protéger et de mettre en place des mécanismes contre les violences faites aux femmes. Donc la société civile, fort de cette constitution, souhaite que toutes les lois discriminatoires, qu'elles soient dans le code du statut personnel, où le père est encore le tuteur, le mari est encore le chef de famille, souhaite que ce soit tout le code aussi pénal dont nous avait parlé tout à l'heure, y compris la loi pour l'héritage. Nous souhaitons...
La loi sur l'héritage. Alors,
sur l'héritage, alors entre parenthèses, cette loi sur l'héritage, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que un homme touche deux parts et une femme touche une part. Et cette loi sur l'héritage, on nous ressort que c'est quelque chose qui vient de la religion. Nous avons une constitution où, en principe, je ne vois pas ce que cette histoire de religion va faire quand on a un article 21 qui vous dit égalité de droit entre l'homme et la femme. Les choses sont claires, voilà. Et puis, je voulais vous dire aussi, c'est le code du travail. Donc voilà, il y a une volonté de la société civile de mettre à plat toutes ces lois qui sont discriminatoires. D'accord ? Et à travers ce projet de loi intégrale, il y a aussi la volonté, comme a expliqué mon ami Amel tout à l'heure, donc de pouvoir faire de la prévention, parce que là, on ne peut pas diminuer les violences contre les femmes s'il n'y a pas des objectifs de prévention. La prévention, c'est par rapport, par exemple, au traitement médiatique au niveau des médias, c'est par rapport à la prévention des violences et au respect des droits.
Le traitement dans les médias, justement, parlons-en. Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas à l'heure actuelle quand on parle de ce problème-là dans les médias aujourd'hui? Aujourd'hui, dans les radios, sur les chaînes de télévision.
C'est un traitement qui est là pour faire de l'audimat, pour faire le buzz, pour humilier et pour victimiser une deuxième fois les femmes victimes de violence. Parce que l'animateur fait du reality show, il amène des femmes sans être respectueux de leur dignité, en lui disant « Ton mari, bon, il t'a poussé, et alors ? Écoute, tu aurais dû accepter, après tout, c'est ton mari. Après tout, il est le père de tes enfants. C'est pas grand-chose qu'il te demande, ou pour le bien-être de ta famille. » Et c'est toujours le bien-être de la famille.
Pourquoi les femmes acceptent de participer à ces émissions ?
Les femmes acceptent de participer parce qu'elles ont l'impression que quand les gens vont les entendre, on va leur donner raison. Or, ce qui se passe est le contraire, parce que nous avons des femmes qui sont venues nous voir et qui nous ont expliqué après, quand elles sont retournées dans leur quartier, qu'elles ont été humiliées, elles ont été stigmatisées, leurs enfants à l'école ont été stigmatisés, et ça a été catastrophique pour elles. Elles ont été quelquefois obligées de changer de quartier, et il y a eu encore plus de rumeurs quant à leur situation. Donc, certaines femmes ont vraiment très mal vécu ces situations.
Alors concrètement, on fait comment pour changer la façon dont on parle de ce problème dans les médias tunisiens aujourd'hui ?
Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On forme les journalistes. La formation des journalistes, on a un syndicat des journalistes qui est très motivé pour la formation des journalistes. Il y a eu une charte qui a été faite cette année des journalistes pour un traitement des violences respectueux des droits des femmes, avec des engagements un peu comme ça avait été fait avec les médias de la télévision espagnole à un certain moment, c'est-à-dire que les violences ne sont plus des faits divers, les violences doivent être traitées comme des faits de société et comme des faits hautement politiques qui reflètent la situation des femmes. On demande aussi aux animateurs télé, aux journalistes, de ne pas parler de faits morbides,
de se complaire dans les détails, dans la description,
mais plutôt de parler de la situation de ces femmes-là et des violences, et de se documenter par rapport aux enquêtes que nous avons pour expliquer que c'est toutes les femmes.
Quand vous entendez ces lycéens qui découvrent le mouvement qui franchit sur Internet, ils pour elles, qui se mobilisent, garçons et filles, juste pour parler des problèmes, pour parler de l'égalité, pour mettre des mots sur des situations.
C'est excellent, ce sont nos meilleurs alliés. C'est-à-dire, à partir du moment où eux, jeunes, vont faire tout un travail sur l'égalité, ça c'est un vrai travail de prévention pour une meilleure société demain, avec beaucoup moins de violence. Donc on ne peut qu'appuyer ces initiatives.
Anna Mazoun, tu veux réagir en tant que lycéenne ?
Moi ça me fait hyper plaisir d'entendre ça venant de vous. Ça nous touche vraiment parce que...
Ça te motive encore davantage ?
Oui, parce que c'est vraiment dur de faire ça, même au lycée, dans la mesure où certaines personnes ne sont pas conscientes des problèmes qui existent. Que ça soit, mis à part la violence faite aux femmes, mais les stéréotypes, enfin tous les préjugés qu'on peut avoir, il y en a plein qui ne sont pas conscients.
Tu veux dire que, en gros, on vous ridiculise, on se fiche de vous parfois dans
non,
le lycée,
pas non du, ou pas, pas du tout.
Ou on ne comprend pas de quoi vous parlez. Ouais, Skander, vas-y, dis-nous.
Dans notre lycée, peut-être pas. En tout cas, on n'est pas venu nous le dire en face. Mais je me rappelle qu'on avait posté notre première vidéo, qu'on a eu des commentaires assez affligeants.
Enfin, justement, sur la vidéo qui explique, pour les collégiens, qui explique le féminisme, ça nuit à l'image de l'homme arabe, que, excusez-moi, mais l'homme qui défend ça n'est qu'un homosexuel, qu'il n'y a pas à défendre ça, que c'est totalement une mentalité occidentale.
Donc vous n'êtes pas des Tunisiens, quoi, en gros.
Voilà.
C'est ça ?
Que c'est pas humain ce qu'on fait, c'est pas bien, ça nuit à l'image de l'homme tunisien.
Dire que ça détruit la valeur de l'homme arabe, pour moi c'est lui qui détruit l'homme arabe.
On est respectueux des droits des personnes, hein, des droits humains, on n'est pas respectueux des droits humains, c'est-à-dire à partir du moment où ces jeunes-là se consacrent tout un travail et tout un militantisme à travailler pour l'égalité, donc ils sont accusés des pires les mots, et les pires de mots dans cette société, c'est dire qu'ils portent, ils ne sont pas virils ou bien qu'ils sont homosexuels. Ça, c'est le conservatisme. Ce sont des gens rétrogrades, ce sont des gens qui finalement, comment vous dire, c'est pas la Tunisie de demain.
Alors justement, on va en parler de la Tunisie de demain, des lois et des évolutions sur lesquelles vous comptez le plus rapidement. Ça sera juste après le petit choix musical de nos lycéens dans quelques instants.
نسات اللي احنا ليك مالي من دمعاتك بنا وقصور ونسى واحوالك واحوالي
نرجع لك ديما ديما ونفرفت فراح ما نحر في زناقك لقديمة ما مدات البرا نرجع للاف البدور فني حزب المهدية والفسقية والملاسين السيدة المنوبية
de voisins sur RFI. C'est Anna Mazoun, élève de terminale au lycée Pierre Manès France, qui a fait la programmation musicale. Non, vous l'avez faite à plusieurs, en fait. Alors, c'est quoi le choix qu'on vient d'écouter, là, dans l'émission 7 milliards de voisins ?
Alors, c'est une chanson qui est apparue juste après la Révolution de Grené Alik, qui veut dire une chanson pour toi. Elle est adressée à la Tunisie, aux Tunisiens, et c'est, enfin, je trouve que c'est une chanson qui donne beaucoup d'espoir, et je la trouve très inspirante.
Alors justement, reparlons de l'agenda politique. On a des élections locales en vue, il y a une fenêtre de tir étroite. Est-ce que vous pensez, mesdames, vous qui êtes militantes pour les droits des femmes, pour lutter contre les violences faites aux femmes, est-ce que vous pensez, vous y croyez au fait qu'il va y avoir une accélération juridique? Est-ce que vous croyez au vote de cette loi pour lutter contre les violences faites aux femmes?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on compte toujours sur la société civile tunisienne. C'est notre dernier souffle, c'est l'espoir. La société civile tunisienne, c'est l'espoir de la Tunisie avant et après la révolution. Aujourd'hui, en regardant toutes les lois et toute la législation qui a été réformée à travers la pression, la mobilisation de la société civile tunisienne, aujourd'hui, on peut qu'être fier.
On veut une loi intégrale, c'est-à-dire une loi non seulement qui fasse, comme on disait tout à l'heure, de la prévention, de la prise en charge et aussi qui pénalise réellement les violences, mais qui lutte contre toutes les lois discriminatoires. Et nous souhaitons que ce soit des lois qui mettent aussi en place des mécanismes pour protéger les femmes et des mécanismes pluridisciplinaires. Parce que les femmes victimes de violences, elles ont aussi bien besoin de gens formés au ministère de l'Intérieur qui prennent le dépôt de plainte, que de personnel formé au niveau de la santé, que d'assistantes sociales formées, que de juristes et de magistrats formés, parce que visiblement, il manque énormément de formation par rapport aux violences. Vous savez, dans les pays qui ont beaucoup fait pour les violences faites aux femmes, il y a des magistrats qui sont formés, qui ne font que ça, qui sont spécialisés. Chez nous, ils font tout, ils font... voilà.
Dans un pays où les comptes publics sont quand même en rouge, quel peut être le poids des bailleurs de fonds pour faire pression, dans le sens, évidemment, qui vous arrange? Vous appartenez à mal à une organisation internationale, vous êtes bien placé pour répondre.
Justement, moi j'allais dire le contraire, que je ne suis pas bien placée pour répondre.
Pourquoi ?
Au fait, nous, je vais parler de Remède Droit. Le réseau Remède Droit, nous, on n'est pas un bailleur de fonds, mais une organisation internationale.
Oui, enfin, vous êtes en lien avec les bailleurs de fonds. Les bailleurs multilatéraux, l'Union européenne, etc.
Justement, on travaille en étroite collaboration avec l'Union européenne et surtout la délégation de l'Union européenne en Tunisie, et surtout sur la question des violences à l'égard des femmes. Mais aujourd'hui, c'est la société civile tunisienne locale qui est en train de bouger les choses avec l'appui et le soutien des organisations internationales. Oui. Donc on ne peut pas parler de cette différence, on ne peut pas comparer.
Et qu'en est-il des bailleurs de fonds du monde arabe, qui sont très importants aussi, notamment le Qatar par exemple?
Sur les violences à l'égard des femmes, jamais vu. Ça ne doit pas les intéresser tellement, franchement. Jamais vu. Non, mais pour ne pas faire d'humour, parce qu'on ne peut pas faire d'humour sur ce sujet-là, je voudrais vous dire qu'il y a quand même des pays qui sont engagés parce qu'ils ont l'expertise et qui sont vraiment engagés, comme l'Espagne, pour aider la société civile contre les violences faites aux femmes. Il y a aussi des pays d'Europe du Nord, comme le Danemark, par exemple, qui nous aident à travers leur expertise aussi, et avec des fonds qui ne sont pas des fonds énormes, mais voilà, ils sont là, et ils ont toujours été là.
Oui. Alors justement,
pour la société civile, j'allais
vous poser la question, comment est-ce que vous faites? Par exemple, le foyer d'accueil pour les femmes qui sont victimes de violences chez Beïti, comment vous survivez? Vous avez des aides de l'État, il y a d'autres foyers si les femmes ne trouvent porte close chez vous parce qu'il n'y a plus de place? Vous riez, mais je sens que vous riez jaune, en fait.
Oui, tout à fait. En fait, on survit, comme vous l'avez dit. On essaye de survivre. Il y a certaines organisations qui nous aident, mais d'autres qui considèrent que nous ne sommes pas dans leur agenda. Et personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'argent qui part dans des activités, je dirais, entre guillemets, ou projets qui ne sont pas des urgences. Moi, je trouve personnellement qu'une aide à une femme victime de violence, à un service de prise en charge, qu'elle soit en écoute, en soutien psychologique ou en accompagnement
juridique... Vous avez
30
places. C'est rien par rapport à la demande, j'imagine, et aux besoins.
Tout à fait, exactement. Et nous, on essaye, parfois même avec nos propres moyens, les moyens personnels du staff ou des bénévoles de l'association. Parfois, on essaye avec des dons.
Aucune aide de l'État?
Aucune aide de l'État.
Pas la moindre subvention.
En fait, la seule aide que je dirais qui est une aide, c'est l'établissement. L'établissement, il appartient à l'État, en fait.
Les locaux.
Mais il n'y a pas de... Oui, les locaux. Il n'y a pas d'appui institutionnel financier.
Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, l'État admet la réalité, commande des études, communique sur les études, sur les chiffres, sur les statistiques. Donc, c'est quand même
un centre d'écoute.
Oui. Alors, justement,
ils ont un téléphone
vert. Vous êtes écoutante, vous.
Alors, moi, je vais vous dire, ils ont un téléphone vert avec des écoutantes qui ont été effectivement formées, mais ces écoutantes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles orientent les femmes victimes de violences qui sont reçues au ministère de la Femme vers les associations et donc vers notre centre. Donc quand on demande au centre, qui vous a orienté ? J'ai téléphoné au ministère, où j'étais au ministère, et il y a quelqu'un qui m'a dit, vous allez aller au centre d'écoute.
Et au centre d'écoute, alors on trouve quoi ? Voilà. Des bénévoles, des salariés, on trouve quoi ?
On trouve des bénévoles, moi je suis bénévole. Ce sont les militantes, ce sont des bénévoles. Et il y a quelques professionnels, comme les psychologues, ce sont des psychologues qui ont été formés pour l'accompagnement des femmes victimes de violences, et les juristes et les avocates. Mais même les avocates et les psychologues font aussi beaucoup de militantisme.
On arrive au terme de cette émission. Je vais vous laisser bien sûr à chacun un mot pour conclure, nous dire quels sont vos souhaits les plus urgents sur lesquels la pression que vous comptez mettre aussi pour faire progresser la protection des femmes victimes de violences. Nadia Benzarki.
Je suis optimiste. Je dirais que je voudrais être optimiste et je dirais que les changements seront bientôt aboutis. Moi, j'aimerais bien qu'on ne parle plus de violence parce qu'il n'y aura plus de violence et pas que parce qu'on veut étouffer les violences. Voilà.
Dans l'absolu.
Comme dernier mot, il faut garder espoir et surtout compter sur la société civile tunisienne qui va jamais baisser les bras, éradiquer la violence. Et surtout, une recommandation, c'est pour l'adoption du projet de la loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Anne-Emmanuelle Assery.
Oui, moi je rejoindrai les propos d'Amel. Ce qui est important actuellement et la priorité, c'est cette loi intégrale contre les violences, contre toutes les violences, hein, pas uniquement les violences physiques, mais les violences physiques, sexuelles, psychologiques, le harcèlement, etc. Mais je pense que ce qui est important, c'est de penser à la Tunisie de demain. C'est-à-dire de se dire que oui, une voie intégrale, mais oui, faire énormément de prévention pour lutter contre les discriminations et pour l'égalité homme-femme.
On va laisser juste un mot pour les lycéens. Vous ressortez comment de cette émission, Anna ?
Moi, j'ai beaucoup appris grâce aux personnes invitées. Je suis contente d'être ici.
Skander ?
Une bonne expérience, un peu stressante.
Bon, ben, c'est fini. Merci à vous tous, merci à vous les lycéens et merci à vous Amal Yacoubi de Euromed Droit, Nadia Benzarti de Beïti et Anne-Emmanuelle Assery de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Jérémy Besset à Tunis, Romain Dubrac, Camille Néron à Paris. Et on se retrouve lundi, 7 milliards de voisins, ce sera le rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix. Et en général, je peux vous dire qu'il y a pas mal d'ambiance. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.
Carrefour de l'Europe.